Nous allons donc commencer par une intervention donc de Noémie Berger, avocate au cabinet Dune, pour sa chronique « In Code We Trust ». La chronique du jour va porter sur l'usurpation d'identité numérique, Noémie. Donc bonjour Noémie.
Bonjour Fred, bonjour à tous.
Alors nous t'écoutons.
Eh bien oui, donc cette chronique est dédiée au délit d'usurpation d'identité numérique. Donc après une première présentation de ce délit, eh bien nous aborderons quelques cas pratiques de décisions qui ont été rendues en la matière. Donc le délit d'usurpation d'identité, il est prévu en fait à l'article 226-4-1 du Code pénal. Il a été créé par la loi numéro 2011-267 du 14 mars 2011, dite d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, la loi LOPSI 2. Et donc cet article, eh bien, il incrimine le fait d'usurper l'identité d'un tiers ou de faire usage d'une ou plusieurs données de toute nature permettant de l'identifier en vue de troubler sa tranquillité ou celle d'autrui ou de porter atteinte à son honneur et à sa considération. Et donc ce délit est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. Alors l'article précise dans son alinéa 2 que cette infraction est punie des mêmes peines lorsqu'elle est commise sur un réseau de communication au public en ligne. Alors c'est vrai que ce deuxième alinéa n'est pas véritablement pertinent, puisqu'en fait, le premier alinéa, le fait d'usurper l'identité, inclut nécessairement l'infraction qui est commise sur les réseaux de communication au public en ligne. Mais en tout cas, il permet de comprendre la motivation du législateur, puisque l'idée était quand même de faire, d'apporter un peu de pédagogie, et on s'était aperçu que ce type d'agissement était quand même assez régulièrement commis via les réseaux de communication au public en ligne. Donc le législateur a voulu un petit peu renforcer son article, même si l'alinéa à deux est plutôt perçu par les praticiens comme inutile. Il faut savoir qu'avant cet article, eh bien, les faits d'usurpation d'identité étaient sanctionnés par des textes généraux. Donc on avait le délit d'escroquerie qui est prévu à l'article 313-1 du Code pénal. Donc ce délit d'escroquerie, c'est celui qui punit l'usage d'un faux nom, d'une fausse qualité ou l'abus d'une qualité vraie ou l'emploi de manœuvres frauduleuses pour tromper une personne physique ou morale et la déterminer à son préjudice ou au préjudice d'un tiers à lui remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque. Ce délit était puni, et toujours puni d'ailleurs, d'une peine d'emprisonnement de 5 ans et de 375 000 euros d'amende. Et il y avait un autre délit qui était utilisé également pour sanctionner les faits d'usurpation d'identité. C'était l'article 434-23 et qui incrimine le fait de prendre le nom d'un tiers dans des circonstances qui ont déterminé ou auraient pu déterminer contre lui des poursuites pénales. Donc à présent, on a un article qui est prévu dans le Code pénal. Sur l'usurpation d'identité en lui-même, les éléments caractéristiques de ce délit, eh bien, il faut retenir que donc c'est l'usurpation de l'identité. L'identité, dans le rapport de l'Assemblée nationale, eh bien, le conseiller rapporteur estimait que le terme identité recouvrait tous les identifiants électroniques de la personne, à la fois son nom, son surnom, mais également son pseudonyme lorsqu'il est utilisé sur Internet. Et donc, pour que le délit soit caractérisé, il faut d'une part usurper l'identité et d'autre part avoir une volonté d'user cette identité pour troubler la tranquillité d'autrui ou porter atteinte à son honneur ou à sa considération. On a plusieurs décisions de justice en la matière. Alors il faut noter que le délit semble pouvoir s'appliquer également aux personnes morales, puisque la Cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 10 octobre 2014, a jugé qu'une personne morale pouvait agir sur le fondement de l'usurpation d'identité numérique au travers de son dirigeant social. Donc dans cette espèce, le prévenu avait créé, avec les coordonnées de la société, de fausses adresses, et il avait publié des contenus diffamatoires et insultants. Les juges ont retenu le délit d'usurpation d'identité et ont condamné l'auteur des faits à 10 mois de prison avec sursis. L'arrêt qui est assez marquant dans cette matière de l'usurpation d'identité, c'est un arrêt de la chambre criminelle du 16 novembre 2016 qui a été vraiment l'un des plus commentés dans la jurisprudence, puisque c'était la création, en fait, dans cette espèce, un site internet avait été créé et il reproduisait l'apparence officielle du site officiel de la maire du 7e arrondissement de l'époque, qui reproduisait donc sa photographie, qui diffusait des commentaires insultants et diffamatoires et qui permettait de publier sur les réseaux sociaux des faux communiqués de cette maire. Donc une plainte avait été déposée pour atteinte à un système de traitement automatisé de données et usurpation d'identité sur support numérique. Donc Pour les atteintes au système de traitement automatisé de données, je vous renvoie, si cela vous intéresse, à la chronique sur le sujet des infractions informatiques. On avait évoqué ces atteintes. Sur l'usurpation d'identité, donc après enquête, l'auteur du site avait été identifié. Et en fait, ce qu'il avait expliqué, c'est qu'il avait découvert une faille de sécurité dans le site officiel du maire qui lui permettrait en fait d'entrer dans le site et de pouvoir... diffuser lui-même ou par des tiers des contenus et notamment de faux communiqués de presse. Donc il avait été condamné par le tribunal correctionnel pour le délit d'usurpation d'identité et introduction frauduleuse de données dans un système de traitement automatisé à 3000 euros d'amende. La cour d'appel a confirmé cette décision en notant, l'auteur de ces faits avait tenté de se dédouaner en indiquant que le site que lui-même avait créé était légèrement différent du site officiel et donc que ça aurait pu ouvrir une confusion et donc dans ce cas-là, il n'y aurait pas eu d'usurpation d'identité. Là-dessus, les juges n'ont pas considéré que ce moyen était pertinent. Ils ont considéré qu'au contraire, il y avait quand même une importante ressemblance entre le site officiel et le faux site. Et donc, le fait qu'il n'ait pas contesté être l'auteur de la construction, être l'auteur de ce site et qu'il n'ait pas contesté non plus d'avoir découvert le moyen qui lui permettait de se connecter à ce site, eh bien, a aussi joué puisque l'élément intentionnel a donc été retenu. Il avait vraiment la volonté de créer un site fictif, d'encourager des personnes qu'il suivait à mettre en ligne de faux messages via ce site. Et donc, la chambre criminelle de la Cour de cassation a confirmé l'arrêt de la Cour d'appel en considérant que le prévenu avait bien usurpé l'identité d'un tiers en vue de porter atteinte à son honneur ou à sa considération. Et chose importante dans cet arrêt, c'est que la Cour de cassation a indiqué que cette infraction était exclusive de l'application de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme qui protège la liberté d'expression. Donc là, vraiment, on a une décision forte qui vient protéger les intérêts privés. On a ensuite un jugement assez récent, c'est pour ça que j'en parle, du 16 avril 2019, un jugement de la 17e chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Paris, donc qui est la chambre spécialisée en droit de la presse. Donc là, dans cette espèce, un faux site avait été créé en vue de s'attaquer à un syndic de copropriété, qui doit être assez régulier, mais là la personne c'était vraiment avait vraiment mis en place de très importants moyens puisque elle avait créé un site pour en fait critiquer l'action d'un syndic de copropriété. Et donc le président du syndic de copropriété avait déposé une plainte pour usurpation d'identité numérique et pour violation des obligations prévues par la loi pour la confiance dans l'économie numérique, donc c'est à savoir les mentions légales qui ne figuraient pas sur le site. Donc effectivement, le site n'ayant pas de mention légale, les enquêteurs ont dû mener des investigations un peu plus poussées pour identifier l'auteur. En tout cas, il a été identifié. C'est comme ça qu'ils ont pu découvrir que c'était un des copropriétaires. Et là, le tribunal, donc dans sa décision, a relaxé l'auteur du site du délit d'usurpation d'identité pour une motivation qui est assez claire, qui est qu'en fait, le nom du site, si elle comprenait bien celui du syndic de copropriété et faisait référence à son activité professionnelle, eh bien, les juges ont constaté qu'en fait, ce site était suffisamment clair et il n'y avait pas de confusion pour comprendre qu'en fait, il ne s'agissait pas du site du syndic de copropriété, mais bien d'un site qui avait été créé pour critiquer le syndic de copropriété. Donc voilà, la différence est quand même assez importante. Dans ce cas-ci, il n'y a pas eu de condamnation pour usurpation d'identité parce que le site n'avait pas pour vocation de prendre l'identité d'un tiers, mais plutôt de critiquer l'action d'un tiers. Et il faut noter également sur les mentions légales du site qui n'avaient pas été publiées, eh bien, le tribunal a rejeté la demande qui était contenue dans la plainte en considérant que malheureusement la citation directe ne visait pas les bons articles de la loi pour la confiance dans l'économie numérique. Elle visait les articles 6.3.1 et qu'elle aurait dû en fait viser les articles 6.3.2 et que les juges étant limités dans leur requalification, ils ne pouvaient pas requalifier l'infraction par laquelle ils étaient saisis. Donc ce qui rappelle un peu la nécessité de bien rédiger les citations directes quand on est partie civile. Alors Pour terminer, juste comment réagir quand on est victime soi-même du délit d'usurpation d'identité? Évidemment, quand c'est des documents administratifs ou bancaires qui sont en cause, il faut faire opposition au plus vite, conserver les preuves. Si c'est pertinent, prévenir l'éditeur du site, si ce n'est pas lui l'auteur des agissements. Et puis, porter plainte, saisir un juge pour obtenir soit la cessation, soit l'indemnisation. Et éventuellement, voir avec son assureur s'il peut y avoir une indemnisation. Voilà, donc j'en aurais terminé sur cette chronique.
Bah, écoute, merci Noémie. Alors, donc, on a mis sur le site de l'April les références, hein, april.org. Dans ta chronique, tu faisais référence à une précédente chronique sur les infractions relatives à l'informatique. Donc, c'est celle du 16 avril 2019. Le podcast est disponible sur le site. Et d'ailleurs, c'était assez marrant parce que le 16 avril, on avait déjà abordé le second sujet long qu'on va aborder tout à l'heure, les chatons. Donc, vous pouvez écouter le 16 avril. On va se retrouver donc pour ta prochaine et dernière chronique avant la pause estivale le 2 juillet. Et donc, je retiens qu'en tout cas, on peut largement critiquer les syndics de copropriété. Et j'imagine bien qu'il y a beaucoup de sites qui sont consacrés à ce sujet assez récurrent, les problèmes avec les syndics de copropriété, souvent dans le cadre professionnel et peut-être des fois dans le cadre bénévole. C'est aussi une solution, souvent dans les petites copropriétés, de peut-être recourir aux syndics bénévoles. En tout cas, merci pour ta chronique juridique, Noémie. Puis on se retrouve le 2 juillet.
Merci.
Bonne journée.